Nos appréciations. Il faut ramener toutes nos actions à des façons d'apprécier. Toutes nos appréciations nous sont propres, ou bien elles sont acquises. Ces dernières sont les plus nombreuses. Pourquoi les adoptons-nous ? Par crainte. C'est-à-dire que notre prudence nous conseille d'avoir l'air de les prendre pour nôtres, et nous nous habituons à cette idée en sorte qu'elle finit par devenir notre seconde nature. Avoir une appréciation personnelle, cela ne veut-il pas dire mesurer une chose d'après le plaisir ou le déplaisir qu'elle nous cause à nous et à personne d'autre ? Mais c'est là quelque chose d'extrêmement rare. Il faudra du moins que notre appréciation au sujet d'une autre personne qui nous pousse à nous servir, dans la plupart des cas, des appréciations de cette personne, partent de nous et soient notre propre motif déterminant. Mais ces déterminations, nous les créons pendant notre enfance et rarement nous changeons d'avis à leur sujet sur elles. Nous demeurons le plus souvent, durant toute notre vie, dupes de jugements enfantins auxquels nous nous sommes habitués, et cela dans la façon dont nous jugeons nos prochains. Leur esprit, leur rang, leur moralité, leur caractère, ce qu'ils ont de louable ou de blâmable, en rendant hommage à leurs appréciations. L'égoïsme apparent. La plupart des gens, quoi qu'ils puissent penser et dire de leur égoïsme, ne font rien, leur vie durant, pour leur égo, mais seulement pour le fantôme de leur égo qui s'est formé à leur sujet dans le cerveau de leur entourage avant de se communiquer à eux. Par conséquent, ils vivent tous dans une nuée d'opinions impersonnelles, d'appréciations fortuites et fictives, l'un à l'égard de l'autre, et ainsi de suite, d'esprit en esprit. Singulier monde de fantasmes qui sait se donner une apparence si raisonnable. Cette brume d'opinions et d'habitudes grandit et vit presque indépendamment des hommes qu'elle entoure. C'est elle qui cause la disproportion inhérente au jugement d'ordre général qu'on l'emporte sur l'homme. Tous ces hommes inconnus l'un à l'autre croient à cette chose abstraite qui s'appelle l'homme, c'est-à-dire à une fiction. Et tout changement tenté sur cette chose abstraite par le jugement d'individualités puissantes, telles que les princes et les philosophes, fait un effet extraordinaire et insensé sur le grand nombre. Tout cela parce que chaque individu ne sait pas opposer, dans ce grand nombre, un ego véritable qui lui est propre et qui l'a approfondi, à la pâle fiction universelle qui détruirait par la même. Contre la définition du but moral. De tous côtés, on entend maintenant dire que le but de la morale est quelque chose comme la conservation et l'encouragement de l'humanité. Mais c'est là à vouloir une formule et rien de plus. Conservation de quoi ? Faut-il demander, avant tout, encouragement à quoi ? N'a-t-on pas oublié l'essentiel dans la formule ? La réponse à ce « de quoi ?», à ce « à quoi ?» Que résulte-t-il pour la doctrine des devoirs de l'homme qui n'ait pas été fixée déjà tacitement et sans y penser ? Cette formule, dit-elle suffisamment s'il faut voir à prolonger le plus l'existence de l'espèce humaine ou à faire sortir autant que possible l'homme de l'animalité ? Combien différents devraient être dans les deux cas les moyens, c'est-à-dire la morale pratique ? En admettant que l'on veuille donner à l'humanité son plus grand bon sens, cela ne garantirait certes pas sa plus longue durée. Ou bien, en admettant que l'on songe à son plus grand bonheur pour répondre à ce « de quoi ?», à cet « à quoi ?», songe-t-on alors au plus haut degré de bonheur que quelques individus pourraient atteindre peu à peu ? Ou bien à un dernier eudémonisme moyen, indéfinissable, mais que tous pourraient atteindre ? Et pourquoi choisirait-on la moralité pour arriver à ce but ? La moralité n'a-t-elle pas, dans son ensemble, créé une telle source de déplaisir que l'on pourrait plutôt prétendre qu'avec chaque affinement de la moralité, l'homme est devenu plus mécontent de lui-même, de son prochain et de son sort dans l'existence ? L'homme qui jusqu'à présent a été le plus moral, n'a-t-il pas cru que le seul état de l'homme qui puisse se justifier vis-à-vis de la morale était la plus profonde misère ? Notre droit à nos folies. Comment doit-on agir ? Pourquoi doit-on agir ? Pour les besoins prochains et quotidiens de l'individu, il est facile de répondre à ces questions. Mais plus on entre dans un domaine d'action, plus subtil, plus étendu et plus important, plus le problème devient incertain et soumis à l'arbitraire. Cependant, il faut qu'ici, précisément, soit écarté l'arbitraire dans la décision. C'est ce qu'exige l'autorité de la morale. Une crainte et un respect obscur doivent guider l'homme sans retard dans ses actes dont il n'aperçoit pas de suite le but et les moyens. Cette autorité de la morale lit la pensée, dans les choses où il pourrait être dangereux de penser faux. C'est ainsi du moins que la morale a l'habitude de se justifier devant ses accusateurs. Faux. Cela veut dire ici dangereux. Mais dangereux pour qui ? C'est généralement pas le danger de l'action que les promoteurs de la morale autoritaire ont en vue, mais leur danger à eux. La perte que pourrait subir leur puissance et leur influence dès que le droit d'agir d'après la raison propre, grande ou petite, serait accordé à tous, follement et arbitrairement. Car pour leur propre compte, ils usent sans hésiter du droit à l'arbitraire et à la folie. Ils commandent, même quand les questions « comment dois-je agir ? Pourquoi dois-je agir ?» ne peuvent être résolues qu'avec peine et difficulté. Et si la raison de l'humanité grandit avec une si extraordinaire lenteur que l'on a pu nier parfois cette croissance pour toute la marche de l'humanité, à qui faut-il s'en prendre si ce n'est à cette solennelle présence, je dirais même omniprésence, de commandements moraux qui ne permettent même pas à la question individuelle du pourquoi et du comment de se poser. Notre éducation ne s'est-elle pas faite en vue d'évoquer en nous des sentiments pathétiques, de nous faire fuir dans l'obscurité lorsque notre raison devrait garder toute sa clarté et tout son sang-froid ? Je veux dire, dans toutes les circonstances élevées et importantes. Quelques thèses. À l'individu, en tant qu'il veut son bonheur, il ne faut pas donner de préceptes sur le chemin qui mène au bonheur. Car le bonheur individuel jaillit de par des lois inconnues à tout le monde. Il ne peut être qu'entravé et arrêté par des préceptes qui viennent du dehors. Les préceptes que l'on appelle moraux sont en vérité dirigés contre les individus et ne veulent absolument pas le bonheur des individus. Ces préceptes se rapportent tout aussi peu au bonheur et au bien de l'humanité, car il est absolument impossible de donner à ces mots une signification précise et moins encore de s'en servir comme d'un fanal sur l'obscur océan des aspirations morales. C'est un préjugé de croire que la moralité soit plus favorable au développement de la raison que l'immoralité. C'est une erreur de croire que le but inconscient dans l'évolution de chaque être conscient, animal, homme, humanité, etc., soit son plus grand bonheur. Il y a au contraire, sur toutes les échelles de l'évolution, un bonheur particulier et incomparable à atteindre. Un bonheur qui n'est ni haut ni bas, mais précisément individuel. L'évolution ne veut pas le bonheur, elle veut l'évolution et rien de plus. Ce n'est que si l'humanité avait un but universellement reconnu que l'on pourrait proposer des impératifs dans la façon d'agir. Provisoirement, un pareil but n'existe pas. Donc, il ne faut pas mettre les prétentions de la morale en rapport avec l'humanité. C'est là de la déraison et de l'enfantillage. Tout autre chose serait de recommander un but à l'humanité. Ce but serait alors quelque chose qui dépend de notre gré. En admettant qu'il convienne à l'humanité, elle pourrait alors se donner aussi une loi morale qui lui conviendrait. Mais jusqu'à présent, la loi morale devait être placée au-dessus de notre gré. Proprement, on ne voulait pas se donner cette loi, on voulait la prendre quelque part, la découvrir, se laisser commander par elle de quelque part.